L'Iliade, chant 15e. Les Troyens franchissaient dans leur fuite les pieux et le fossé, et beaucoup tombaient sous les mains des Danaïens, et ils s'arrêtèrent auprès de leurs chars, pâles de terreur. Mais Zeus s'éveilla sur les sommets de l'Ida, auprès de Héré au trône d'or. Et se levant, il regarda et vit les Troyens et les Achéens, et les premiers en pleine déroute, et les Argiens, ayant au milieu d'eux le roi Poséidon, les poussant avec fureur. Et il vit Hector gisant dans la plaine, entouré de ses compagnons, respirant à peine et vomissant le sang, car ce n'était pas le plus faible des Achéens qui l'avait blessé. Et le père des hommes et des dieux fut rempli de pitié en le voyant, et avec un regard sombre, il dit à Héré, « Ô astucieuse, ta ruse a éloigné le divin Hector du combat et mis ses troupes en fuite. Je ne sais si tu ne recueilleras pas la première le fruit de tes ruses, et si je ne t'accablerai point de coups. Ne te souvient-il plus du jour où tu étais suspendu dans l'air, avec une enclume à chaque pied, les mains liées d'une solide chaîne d'or, et où tu pendais ainsi de l'éther et des nuées? Tous les dieux, par le grand Olympos, te regardaient avec douleur et ne pouvaient te secourir, car celui que j'aurais saisi, je l'aurais précipité de l'Ouranos, et il serait arrivé sur la terre respirant à peine. Et cependant ma colère, à cause des souffrances du divin Héraclès, n'était point assouvie. C'était toi qui, l'accablant de maux, avais appelé Boréas et les tempêtes sur la mer stérile, et qui l'avais rejeté vers Coos bien peuplé. Mais je le délivrai, et le ramenai dans Argos fécond en chevaux. Souviens-toi de ces choses, et renonce à tes ruses, et sache qu'il ne te suffit pas pour me tromper de te donner à moi sur ce lit, loin des dieux. » Il parla ainsi, et la vénérable Héré frissonna, et lui répondit en paroles ailées. « Que Gaïa le sache, et le large Ouranos, et l'eau souterraine du Styx, ce qui est le plus grand serment des dieux heureux, et ta tête sacrée, et notre lit nuptial, que je n'attesterai jamais en vain. Ce n'est point par mon conseil que Poséidon qui ébranle la terre a dompté les Troyens et Hector. Son cœur seul l'a poussé, ayant compassion des Achéens désespérés autour de leur nef. Mais j'irai, et je lui conseillerai, ô Zeus qui amasse les noires nuées, de se retirer où tu le voudras. » Elle parla ainsi, et le père des dieux et des hommes sourit, et lui répondit ces paroles ailées. « Si tu penses comme moi, étant assise au milieu des immortels, ô vénérable Héré aux yeux de bœuf, Poséidon lui-même, quoi qu'il veuille, se conformera aussitôt à notre volonté. Si tu as dit la vérité dans ton cœur, va dans l'assemblée des dieux, appelle Iris et l'illustre archer Apollon, afin que l'une aille vers l'armée des Achéens cuirassés, dire au roi Poséidon qu'il se retire de la mêlée et qu'il rentre dans ses demeures, et que Phoïbos Apollon ranime les forces d'Hector et apaise les douleurs qui l'accablent, afin que le Priamide attaque de nouveau les Achéens et les mette en fuite. Et ils fuiront jusqu'au nef du Péléide Achilleus, qui suscitera son compagnon Patroclos. Et l'illustre Hector tuera Patroclos devant Ilios, là où celui-ci aura dompté une multitude de guerriers, et entre autres, mon fils, le divin Sarpédon. Et le divin Achilleus, furieux, tuera Hector. Et désormais, je repousserai toujours les Troyens loin des nefs, jusqu'au jour où les Achéens prendront la haute Ilios par les conseils d'Athénée. Mais je ne déposerai point ma colère, et je ne permettrai à aucun des immortels de secourir les Danaïens, tant que ne seront point accomplis et le désir du Péléide, et la promesse que j'ai faite par un signe de ma tête, le jour où la déesse Thétis, embrassant mes genoux, m'a supplié d'honorer Achilleus, le dévastateur de citadelles. » Il parla ainsi, et la déesse Héré au bras blanc se hâta de monter des cimes de l'Ida dans le haut Olympos. Ainsi vole la pensée d'un homme qui, ayant parcouru de nombreuses contrées et se souvenant de ce qu'il a vu, se dit « J'étais là ». La vénérable Héré vola aussi promptement, et elle arriva dans l'assemblée des dieux, sur le haut Olympos où sont les demeures de Zeus. Et tous se levèrent en la voyant, et lui offrirent la coupe qu'elle reçut de Thémis aux belles joues, car celle-ci était venue la première au-devant d'elle, et lui avait dit en paroles ailées, « Héré, pourquoi viens-tu toute troublée? Est-ce le fils de Cronos, ton époux, qui t'a effrayé ? Et la déesse serrée au bras blanc lui répondit : Divine Thémis, ne m'interroge point. Tu sais combien son âme est orgueilleuse et dure. Préside le festin des dieux dans ses demeures. Tu sauras avec tous les immortels les desseins fatals de Zeus. Je ne pense pas que ni les hommes, ni les dieux, puissent se réjouir désormais dans leur festin. La vénérable Érée parla et s'assit, et les dieux s'attristèrent dans les demeures de Zeus. Mais la fille de Cronos sourit amèrement, tandis que son front était sombre au-dessus de ses sourcils bleus. Et elle dit indignée : Insensés que nous sommes, nous nous irritons contre Zeus, et nous voulons le dompter, soit par la flatterie, soit par la violence. Et assis à l'écart, il ne s'en soucie ni ne s'en émeut, sachant qu'il l'emporte sur tous les dieux immortels, par la force et par la puissance. Subissez donc les maux qu'il lui plaît d'envoyer à chacun de vous. Déjà le malheur atteint Arès. Son fils a péri dans la mêlée, Ascalaphos, celui de tous les hommes qu'il aimait le mieux, et que le puissant Arès disait être son fils. » Elle parla ainsi, et Arès, frappant de ses deux mains ses cuisses vigoureuses, dit en gémissant : « Ne vous irritez point, habitants des demeures olympiennes, si je descends aux nefs des Achéens pour venger le meurtre de mon fils, quand même ma destinée serait de tomber parmi les morts, le sang et la poussière, frappés de l'éclair de Zeus. » Il parla ainsi, et il ordonna à la crainte et à la fuite d'atteler ses chevaux, et il se couvrit de ses armes splendides. Et alors, une colère bien plus grande et bien plus terrible se fut soulevée dans l'âme de Zeus contre les immortels, si Athénée, craignant pour tous les dieux, n'eût sauté dans le parvis, hors du trône où elle était assise. Et elle arracha le casque de la tête d'Arès, et le bouclier de ses épaules, et la lance d'airain de sa main robuste. Et elle réprimanda l'impétueuse Arès : Insensé, tu perds l'esprit et tu vas périr. As-tu des oreilles pour ne point entendre ? N'as-tu plus ni intelligence ni pudeur ? N'as-tu point écouté les paroles de la déesse Érée au bras blanc que Zeus a envoyée dans l'Olympos ? Veux-tu toi-même, frappé de mille maux, revenir accablé et gémissant, après avoir attiré des calamités sur les autres dieux ? Zeus laissera aussitôt les Troyens et les Achéens magnanimes, et il viendra nous précipiter de l'Olympos, innocents ou coupables. Je t'ordonne d'apaiser la colère du meurtre de ton fils. Déjà, de plus braves et de plus vigoureux que lui sont morts ou seront tués. Il est difficile de sauver de la mort les générations des hommes. » Ayant ainsi parlé, elle fit asseoir l'impétueuse Arès sur son trône. Puis, Érée appela, hors de l'Olympos, Apollon et Iris, qui est la messagère de tous les dieux immortels, et elle leur dit en paroles ailées : Zeus vous ordonne de venir promptement sur l'Ida, et quand vous l'aurez vu, faites ce qu'il vous ordonnera. Ayant ainsi parlé, la vénérable Érée rentra et s'assit sur son trône. Et les deux immortels s'envolèrent à la hâte, et ils arrivèrent sur l'Ida, où naissent les sources et les bêtes fauves. Et ils virent Zeus au large regard, assis sur le faîte du Gargaros, et il s'était enveloppé d'une nuée parfumée. Et ils s'arrêtèrent devant Zeus qui amasse les nuées, et satisfaits dans son esprit qu'ils eussent obéi promptement aux ordres de l'épouse bien-aimée, il dit d'abord en paroles ailées à Iris : Va, rapide Iris, parle au roi Poséidon, et sois une messagère fidèle. Dis-lui qu'il se retire de la mêlée, et qu'il reste soit dans l'assemblée des dieux, soit dans la mer divine. Mais s'il n'obéissait pas à mes ordres, et s'il les méprisait, qu'il délibère et réfléchisse dans son esprit. Malgré sa vigueur, il ne pourra soutenir mon attaque, car mes forces surpassent de beaucoup les siennes, et je suis l'aîné. Qu'il craigne donc de se croire l'égal de celui que tous les autres dieux redoutent. » Il parla ainsi, et la rapide Iris aux pieds aériens descendit du faîte des cimes idaïennes vers la Sainte Ilios. Comme la neige vole du milieu des nuées, ou la grêle chassée par le souffle impétueux de Boréas, ainsi volait la rapide Iris. Et s'arrêtant devant lui, elle dit à l'illustre qui ébranle la terre : Poséidon aux cheveux bleus, je suis envoyé par Zeus tempétueux. Il te commande de te retirer de la mêlée et de rester soit dans l'assemblée des dieux, soit dans la mer divine. Si tu n'obéissais pas à ses ordres et si tu les méprisais, il te menace de venir te combattre et il te conseille d'éviter son bras, car ses forces sont de beaucoup supérieures aux tiennes et il est l'aîné. Il t'avertit de ne point te croire l'égal de celui que tous les dieux redoutent. Et l'illustre qui ébranle la terre, indigné, lui répondit « Ah, certes, bien qu'il soit grand, il parle avec orgueil, s'il veut me réduire par la force, moi, son égal. Nous sommes trois frères nés de Cronos et qu'enfanta rayé, Zeus, moi et Hédès qui commande aux ombres. On fit trois parts du monde et chacun de nous reçut la sienne. Et le sort décida que j'habiterai toujours la blanche mer. Et Hédès eut les noires ténèbres et Zeus eut le large Ouranos dans les nuées et dans les terres. Mais le haut Olympos et la terre furent communs à tous. C'est pourquoi je ne ferai point la volonté de Zeus, bien qu'il soit puissant. Qu'il garde tranquillement sa part, il ne m'épouvantera pas comme un lâche. Qu'il menace à son gré les fils et les filles qu'il a engendrés, puisque la nécessité les contraint de lui obéir. » Et la rapide Iris aux pieds aériens lui répondit « Poséidon aux cheveux bleus, me faut-il rapporter à Zeus cette parole dure et hautaine? Ne changeras-tu point? L'esprit des sages n'est point inflexible, et tu sais que les Irinies suivent les aînés. » Et Poséidon qui ébranle la terre lui répondit « Déesse Iris, tu as bien parlé. Il est bon qu'un messager possède la prudence, mais une amère douleur remplit mon esprit et mon cœur quand Zeus veut, par des paroles violentes, réduire son égal en honneur et en droit. Je céderai, quoique indigné, mais je te le dis et je le menacerai de ceci. Si malgré nous, moi, la dévastatrice Athénée, Héré, Hermès et le roi Héphaïstos, il épargne la haute Ilios et refuse de la détruire et de donner la victoire aux Argiens, qu'il sache que notre haine sera inexorable. » Ayant ainsi parlé, il laissa le peuple des Achéens et rentra dans la mer. Et les héros achéens le regrettaient. Et alors Zeus qui amasse les nuées dit à Apollon « Va maintenant, cher Phébos, vers Hector armé des reins, car voici que celui qui ébranle la terre est rentré dans la mer, fuyant ma fureur. Certes, ils auraient entendu un combat terrible, les dieux souterrains qui vivent autour de Cronos. Mais il vaut mieux pour tous deux que malgré sa colère, il ait évité mes mains, car cette lutte aurait fait couler de grandes sueurs. Mais toi, prends l'égide aux franges d'or, afin d'épouvanter en la secouant les héros achéens. Archer, prends soin de l'illustre Hector, et remplis-le d'une grande force, pour qu'il chasse les achéens jusqu'au Neph et jusqu'au Hellespontos. Et je songerai alors comment je permettrai aux achéens de respirer. » Il parla ainsi, et Apollon se hâta d'obéir à son père. Et il descendit du faîte de l'Ida, semblable à un épervier tueur de colombes, et le plus impétueux des oiseaux. Et il trouva le divin Hector, le fils du sage Priamos, non plus couché mais assis, et se ranimant, et reconnaissant ses compagnons autour de lui. Et le râle et la sueur avaient disparu par la seule pensée de Zeus tempétueux. Et Apollon s'approcha et lui dit « Hector, fils de Priamos, pourquoi rester assis sans force loin des tiens? Es-tu la proie de quelque douleur ?» Et Hector au casque mouvant lui répondit d'une voix faible « Qui es-tu, ô le meilleur des dieux, qui m'interroges ainsi? Ne sais-tu pas qu'auprès des nefs achéennes, tandis que je tuais ses compagnons, le brave Aias m'a frappé d'un rocher dans la poitrine et a rompu mes forces et mon courage. Certes, j'ai cru voir aujourd'hui les morts et la demeure d'Hédès en rendant ma chère âme. » Et le royal archer Apollon lui répondit « Prends courage. Du haut de l'Ida, le Cronion a envoyé pour te secourir Phébos Apollon à l'épée d'or. Toi et ta haute citadelle, je vous ai protégés et je vous protège toujours. Viens. Excite les cavaliers à pousser leurs chevaux rapides vers les nefs creuses, et j'irai devant toi, et j'aplanirai la voie aux chevaux, et je mettrai en fuite les héros achéens. » Ayant ainsi parlé, il remplit le prince des peuples d'une grande force. Comme un étalon, longtemps retenu à la crèche et nourri d'orge abondante, qui rompt son lien et qui court, frappant la terre de ses quatre pieds, se plonger dans le fleuve clair, et qui, la tête haute, secouant ses crins sur ses épaules, fier de sa beauté, bondit aisément jusqu'aux lieux accoutumés où paissent les cavales. De même Hector, à la voix du dieu, courait de ses pieds rapides, excitant les cavaliers. Comme des chiens et des campagnards qui poursuivent un cerf frameux, ou une chèvre sauvage qui se dérobe sous une roche creuse ou dans la forêt sombre et qu'ils ne peuvent atteindre, quand un lion à longue barbe, survenant tout à coup à leur cri, les disperse aussitôt malgré leur impétuosité. De même les Danaïens, poursuivant l'ennemi de leurs lances à deux pointes, s'épouvantèrent en voyant Hector parcourir les lignes troyennes, et leur âme tomba à leurs pieds. Et Thoas Andrémonide les excitait, et c'était le meilleur guerrier étolien, habile au combat de la lance et ferme dans la mêlée. Et peu d'Achéens l'emportaient sur lui dans l'agora, et il s'écria « Ah certes, je vois de mes yeux un grand prodige, voici le Priamide échappé à la mort. Chacun de nous espérait qu'il avait péri par les mains d'Aias des Lamoniens, mais sans doute un dieu l'a sauvé de nouveau, lui qui a rompu les genoux de tant de Danaïens et qui va en rompre encore, car ce n'est point sans l'aide de Zeus tonnant qu'il revient furieux au combat. Mais allons, et obéissez tous, que la multitude retourne aux nefs, et tenons ferme, nous qui sommes les plus braves de l'armée. Tendons vers lui nos grandes lances, et je ne pense pas qu'il puisse, malgré ses forces, enfoncer les lignes des Danaïens. » Il parla ainsi, et tous l'entendirent et obéirent. Et autour de lui étaient les Aias, et le roi Idoménéus, et Teucros, et Mériones, et Mégès semblable à Arès. Et ils se préparaient au combat, réunissant les plus braves contre Hector et les Troyens. Et derrière eux, la multitude retournait vers les nefs des Achéens. Et les Troyens frappèrent les premiers. Hector les précédait, accompagné de Phébos Apollon, les épaules couvertes d'une nuée, et tenant l'égide terrible aux longues franges que le forgeron Héphaïstos donna à Zeus pour épouvanter les hommes. Et tenant l'égide en main, il menait les Troyens. Et les Argiens les attendaient de pied ferme, et une clameur s'éleva des deux côtés. Les flèches jaillissaient des nerfs, et les lances des mains robustes, et les unes pénétraient dans la chair des jeunes hommes, et les autres entraient en terre, avides de sang, mais sans avoir percé le beau corps des combattants. Aussi longtemps que Phoebos Apollon tint l'égide immobile en ses mains, les traits percèrent des deux côtés, et les guerriers tombèrent. Mais quand il la secoua devant la face des cavaliers danaïens, en poussant des cris terribles, leur cœur se troubla dans leur poitrine, et ils oublièrent leur force et leur courage. Comme un troupeau de bœufs, ou un grand troupeau de brebis, que deux bêtes féroces au milieu de la nuit bouleversent soudainement en l'absence de leurs gardiens. De même, les Achéens furent saisis de terreur, et Apollon les mit en fuite, et donna la victoire à Hector et aux Troyens. Alors, dans cette fuite, chaque homme tua un autre homme. Hector tua Stichios et Arkésilaos, l'un chef des Boyotiens aux tuniques d'airain, l'autre fidèle compagnon du magnanime Ménestheus. Et Énéas tua Médon et Iasos, et Médon était bâtard du divin Oïleus et frère d'Aias, mais il habitait Philakée, loin de sa patrie, ayant tué le frère de sa belle-mère Eriopis, femme d'Oïleus. Et Iasos était un chef athénien et fils de Sphélos Boucolide. Et Polydamas tua Mécistéus, et Polytès tua Échios, qui combattait au premier rang. Et le divin Agénor tua Clonios, et Paris frappa au sommet de l'épaule, par derrière, Déiochos qui fuyait, et les reins le traversa. Tandis que les vainqueurs dépouillaient les cadavres de leurs armes, les Achéens franchissaient les pieux dans le fossé et fuyaient çà et là derrière la muraille, contraints par la nécessité. Mais Hector commanda à haute voix aux Troyens de se ruer sur les nefs et de laisser là les dépouilles sanglantes. « Celui que je verrai loin des nefs, je lui donnerai la mort. Ni ses frères, ni ses sœurs ne mettront son corps sur le bûcher, et les chiens le déchireront devant notre ville. » Ayant ainsi parlé, il poussa les chevaux du fouet, en entraînant les Troyens, et tous, avec des cris menaçants et une clameur immense, Ils poussaient leurs chars en avant. Et Phoibos Apollon jeta facilement du pied les bords du fossé dans le milieu, et le comblant le fit aussi large que l'espace parcouru par le trait que lance un guerrier vigoureux. Et tous s'y jetèrent en foule. Et Apollon, les précédant avec l'égide éclatante, renversa le mur des Achéens aussi aisément qu'un enfant renverse, auprès de la mer, les petits monceaux de sable qu'il a amassés et qu'il disperse en se jouant. Ainsi, archer Apollon, tu dispersas l'œuvre qui avait coûté tant de peines et de misères aux Argiens, et tu les mis en fuite. Et ils s'arrêtèrent auprès des nefs, s'exhortant les uns les autres, et les mains étendues vers les dieux, ils les imploraient. Et le Gérénien Nestor, rempart des Achéens, priait, les bras levés vers l'Ouranos étoilé. Père Zeus, si jamais dans la fertile Argos, brûlant pour toi les cuisses grasses des bœufs et des brebis, nous t'avons supplié de nous accorder le retour. Et si tu l'as promis d'un signe de ta tête, souviens-toi, ô Olympien, éloigne notre jour suprême, et ne permets pas que les Achéens soient domptés par les Troyens. » Il parla ainsi en priant, et le sage Zeus entendit la prière du vieux Néléiade, et tonna. Et au bruit du tonnerre, les Troyens, croyant comprendre la pensée de Zeus tempétueux, se ruèrent plus furieux sur les Argiens. Comme les grandes lames de la haute mer assiègent les flancs d'une nef, poussées par la violence du vent, car c'est elle qui gonfle les eaux. De même, les Troyens escaladaient le mur avec de grandes clameurs, et ils poussaient leurs chevaux et combattaient devant les nefs à coups de lances aiguës. Et les Achéens, du haut de leurs nefs noires, les repoussaient avec ces longs pieux, couchés dans les nefs, et qui, cerclés d'airain, servent dans le combat naval. Tant que les Achéens et les Troyens combattirent au-delà du mur, loin des nefs rapides, Patroclos, assis sous la tente de l'irréprochable Ripilos, le charma par ses paroles et baigna sa blessure de baume qui guérissent les douleurs amères. Mais quand il vit que les Troyens avaient franchi le mur et que les Achéens fuyaient avec des cris, il gémit et frappa ses cuisses de ses mains et il dit en pleurant « Ripilos, je ne puis rester plus longtemps, bien que tu souffres, car voici une mêlée suprême. Qu'un de tes compagnons te soigne. Il faut que je retourne vers Achilleus et que je l'exhorte à combattre. Qui sait si un dieu m'aidant, je ne toucherai point son âme. Le conseil d'un ami est excellent. » Ayant ainsi parlé, il s'éloigna. Cependant, les Achéens soutenaient l'assaut des Troyens, et ceux-ci ne pouvaient rompre les phalanges des Danaïens et envahir les tentes et les nefs, et cela ne pouvait repousser l'ennemi loin des nefs. Comme le bois dont on construit une nef est mis de niveau par un habile ouvrier à qui Athénée a enseigné toute sa science, de même le combat était partout égal autour des nefs. Et le Priamide attaqua l'Illustraïas, et tous deux soutenaient le travail du combat autour des nefs, et l'un ne pouvait éloigner l'autre pour incendier les nefs, et l'autre ne pouvait repousser le premier que soutenait un dieu. Et l'Illustraïas frappa de sa lance Calétor, fils de Clytios, comme celui-ci portait le feu sur les nefs, et Calétor tomba renversé, laissant échapper la torche de ses mains. Et quand Hector vit son parent tomber dans la poussière devant la nef noire, il cria aux Troyens et aux Lykiens, « Troyens, Lykiens et Dardaniens belliqueux, n'abandonnez point le combat étroitement engagé, mais enlevez le fils de Clytios, et que les Achéens ne le dépouillent point de ses armes. » Il parla ainsi, et lança sa pique éclatante contre Aias, mais il le manqua, et il atteignit Lycophon, fils de Mastor, compagnon d'Aias, et qui habitait avec celui-ci, depuis qu'il avait tué un homme dans la divine Kythérée. Et le Priamide le frappa de sa lance aiguë au-dessus de l'oreille, auprès d'Aias, et Lycophon tomba du haut de la poupe sur la poussière, et ses forces furent dissoutes. Et Aias, frémissant, appela son frère. « Ami Teucros, notre fidèle compagnon est mort, lui qui, loin de Kythérée, vivait auprès de nous, et que nous honorions autant que nos parents bien-aimés. Le magnanime Hector l'a tué. Où sont tes flèches mortelles et l'arc que t'a donné Phoibos Apollon ?» Il parla ainsi, et Teucros l'entendit, et il accourut, tenant en main son arc recourbé, et le carquois plein de flèches. Et il lança ses flèches aux Troyens, et il frappa Cleitos, fils de Peisénor, compagnon de l'illustre Pantoïde Polydamas, dont il conduisait le char et les chevaux à travers les phalanges bouleversées, afin de plaire à Hector et aux Troyens. Mais le malheur l'accabla sans que nul pût le secourir, et la flèche fatale entra derrière le cou, et il tomba du char, et les chevaux reculèrent, secouant le char vide. Et le prince Polydamas, l'ayant vu, accourut promptement aux chevaux, et les confia à Astynoos, fils de Protiaon, lui recommandant de les tenir près de lui. Et il se mêla de nouveau aux combattants. Et Teucros lança une flèche contre Hector, et il l'eût retranché du combat auprès des nefs des Achéens, s'il l'avait atteint, et il lui eût arraché l'âme. Mais il ne put échapper au regard du sage Zeus, qui veillait sur Hector. Et Zeus priva de cette gloire le télamonien Teucros, car il rompit le nerf bien tendu, comme Teucros tendait l'art excellent. Et la flèche à pointe d'airain s'égara, et l'arc tomba des mains de l'archer, et Teucros frémit et dit à son frère : Ah, certes, quelque dieu nous traverse dans le combat. Il m'a arraché l'arc des mains, et rompu le nerf tout neuf que j'y avais attaché moi-même ce matin, afin qu'il pût lancer beaucoup de flèches. Et le grand télamonien Aias lui répondit : Ô ami, laisse ton arc et tes flèches, puisqu'un dieu jaloux des Danaïens disperse tes traits. Prends une longue lance, mets un bouclier sur tes épaules et combat les Troyens en excitant les troupes. Que ce ne soit pas du moins sans peine qu'ils se rendent maîtres de nos nefs bien construites. Mais souvenons-nous de combattre. » Il parla ainsi, et Teucros, déposant son arc dans sa tente, saisit une solide lance à pointe d'airain, mit un bouclier à quatre lames sur ses épaules, un excellent casque à crinière sur sa tête, et se hâta de revenir auprès d'Aias. Mais quand Hector eut vu que les flèches de Teucros lui étaient devenues inutiles, il cria à haute voix aux Troyens et aux Lykiens : Troyens, Lykiens et belliqueux Dardaniens, soyez des hommes, et souvenez-vous de votre force et de votre courage auprès des nefs creuses. Je vois de mes yeux les flèches d'un brave archer brisées par Zeus. Il est facile de comprendre à qui le puissant Cronion accorde ou refuse son aide, qui il menace et qui il veut couvrir de gloire. Maintenant, il brise les forces des Achéens et il nous protège. Combattez fermement autour des nefs. Si l'un de vous est blessé et meurt, qu'il meure sans regret, car il est glorieux de mourir pour la patrie, car il sauvera sa femme, ses enfants et tout son patrimoine, si les Achéens retournent sur leurs nefs dans la chère terre de leurs aïeux. Ayant ainsi parlé, il excita la force et le courage de chacun. Et Aias, de son côté, exhortait ses compagnons : Ô honte ! C'est maintenant, Argiens, qu'il faut périr ou sauver les nefs. Espérez-vous, si Hector au casque mouvant se saisit de nos nefs, retourner à pied dans la patrie ? Ne l'entendez-vous point exciter ses guerriers, ce Hector qui veut brûler nos nefs ? Ce n'est point aux danses qu'il les pousse, mais au combat. Le mieux est de leur opposer nos bras et notre vigueur. Il faut mourir promptement, ou vivre, au lieu de nous consumer dans un combat sans fin contre des hommes qui ne nous valent pas. » Ayant ainsi parlé, il ranima le courage de chacun. Alors Hector tua Schédios, fils de Périmédès, chef des Phocéens, et Aias tua Laodamas, chef des hommes de pied, fils illustre d'Anténor. Et Polydamas tua Otos le Kylénien, compagnon du Philéide, chef des Magnanimes épéiens. Et Mégès, l'ayant vu, s'élança sur Polydamas. Mais celui-ci, s'étant courbé, échappa au coup de la pique, car Apollon ne permit pas que le Pantoïde tombât parmi les combattants. Et la pique de Mégès perça la poitrine de Chréismos, qui tomba avec bruit. Et comme le Philéide lui arrachait ses armes, le brave Dolops l'Empétide se jeta sur lui. Dolops qu'engendra le Laomédontiade Lampos, le meilleur des hommes mortels. Et il perça de sa lance le milieu du bouclier de Mégès, mais son épaisse cuirasse préserva celui-ci. C'était la cuirasse que Phileus apporta autrefois des Phirées, des bords du fleuve Séléis. Et son hôte, le roi des hommes Phétès, la lui avait donnée pour la porter dans les mêlées comme un rempart contre l'ennemi. Et maintenant, elle préserva son fils de la mort. Et Mégès frappa de son épée le cône du casque d'airain à crinière de cheval, et les grès trompus tomba dans la poussière, ayant été teintes récemment d'une couleur de pourpre. Et tandis que Mégès combattait encore et espérait la victoire, le brave Ménélaos accourut à son aide, et venant à la dérobée, frappa l'épaule du Troyen. Et la pointe d'airain traversa la poitrine, et le guerrier tomba sur la face. Et les deux Achéens s'élançaient pour le dépouiller de ses armes d'airain. Mais Hector excita les parents de Dolops, et surtout il réprimanda le Hicétaonide, le brave Ménalippos, qui paissait avant la guerre ses bœufs aux pieds flexibles d'Empercoté, mais qui vint à Ilios quand les nefs d'Anaën aux doubles avirons arrivèrent. Et il brillait parmi les Troyens, et il habitait auprès de Priamos, qui l'honorait à l'égal de ses fils. Et Hector lui adressa ses paroles dures et sévères. Ainsi, Ménalippos, nous restons inertes. Ton parent mort ne touche-t-il point ton cœur? Ne vois-tu pas qu'ils arrachent les armes de Dolops? Suis-moi. Ce n'est plus de loin qu'il faut combattre les Argiens. Nous les tuerons, ou la haute Ilios sera prise, et ils égorgeront ses citoyens. » En parlant ainsi, il s'élança, et Ménalippos le suivit, semblable à un dieu. Et le grand Télamonien Aias exhortait les Achéens. « Ô amis, soyez des hommes, ayez honte de fuir, et faites face au combat. Les braves sont plutôt sauvés que tués, et les lâches seuls n'ont ni gloire ni salut. » Il parla ainsi, et les Achéens retinrent ses paroles dans leur esprit, prêts à s'entraider, et ils faisaient comme un mur d'airain autour des nefs, et Zeus excitait les Troyens contre eux, et le brave Ménélaos anima ainsi Antilochos. Antilochos, nul d'entre les Achéens n'est plus jeune que toi, ni plus rapide, ni plus brave au combat. Plutôt Dieu, que tu pusses tuer quelques Troyens. » Il parla ainsi, et il le laissa exciter par ses paroles. Et Antilochos se jeta parmi les combattants, et lança sa pique éclatante, et les Troyens reculèrent. Mais la pique ne fut point lancée en vain, car elle perça à la poitrine, près de la mamelle, Ménalippos, l'orgueilleux fils de Hicétaon. Et il tomba, et ses armes sonnèrent, et le brave Antilochos se jeta sur lui, comme un chien sur un faon qu'un chasseur a percé, tandis qu'il bondissait hors du gîte. Ainsi, Ménalippos, le belliqueux Antilochos sauta sur toi pour t'arracher tes armes. Mais le divin Hector, l'ayant vu, courut sur lui à travers la mêlée. Et Antilochos ne l'attendit pas, quoique brave, et il prit la fuite, comme une bête fauve qui, ayant tué un chien, ou le bouvier au milieu des bœufs, fuit avant que la foule des hommes la poursuive. Ainsi fuyait le Nestoride. Et les Troyens et Hector, avec de grands cris, l'accablaient de traits violents. Mais il leur fit face, arrivé auprès de ses compagnons. Et les Troyens, semblables à des lions mangeurs de chair crue, se ruaient sur les nefs, accomplissant ainsi les ordres de Zeus, car il leur inspirait la force et il troublait l'âme des Argiens, voulant donner une grande gloire au Priamide d'Hector et le laisser jeter la flamme ardente sur les nefs aux poupres courbées, afin d'exaucer la fatale prière de Thétis. Et le sage Zeus attendait qu'il eût vu le feu embraser une nef, et alors il repousserait les Troyens loin des nefs et rendrait la victoire aux Danaïens. C'est pourquoi il entraînait vers les nefs creuses le Priamide d'Hector, déjà plein d'ardeur, furieux, agitant sa lance comme Arès, ou pareil à un incendie terrible qui gronde sur les montagnes dans l'épaisseur d'une forêt profonde. Et la bouche d'Hector écumait, et ses yeux flambaient sous ses sourcils, et son casque s'agitait sur sa tête guerrière. Et Zeus lui venait en aide, l'honorant et le glorifiant parmi les hommes, car sa vie devait être brève. Et voici que Pallas Athénée préparait le jour fatal où il tomberait sous la violence du Péléide. Et il tentait de rompre les lignes des guerriers, se ruant là où il voyait la mêlée la plus pressée et les armes les plus belles. Mais malgré son désir, il ne pouvait rompre l'armée ennemie, car celle-ci résistait comme une tour, ou comme une roche énorme et haute, qui se dressant près de la blanche mer, soutient le souffle rugissant des vents et le choc des grandes lames qui se brisent contre elle. Ainsi, les Danaïens soutenaient fermement l'assaut des Troyens et ne fuyaient point, tandis qu'Hector, éclatant comme le feu, bondissait de tous côtés dans la mêlée. Comme l'eau de la mer, enflée par les vents qui soufflent avec véhémence du milieu des nuées, assiège une nef rapide et la couvre tout entière d'écume, tandis que le vent frémit dans la voile et que les matelots sont épouvantés parce que la mort est proche. De même, le cœur des Achéens se rompait dans leur poitrine. Ou quand il arrive qu'un lion désastreux tombe au milieu des bœufs innombrables qui pèsent dans un vaste marécage, de même que le bouvier, ne sachant point combattre les bêtes fauves pour le salut de ses bœufs noirs, va tantôt à un bout, tantôt à l'autre bout du troupeau, tandis que le lion bondit au milieu des génisses qui s'épouvantent et en dévore une. De même, les Achéens étaient bouleversés par Hector et par le père Zeus. Cependant, le Priamide n'avait tué que le seul Périphétès de Mycène, fils bien-aimé de Cypréus, qui portait à la force héracléenne les ordres du roi Eurystéus. Il était né fils excellent d'un père indigne, et par toutes les vertus, par son courage et par sa sagesse, il était le premier des Mycéniens. Et il donna une grande gloire à Hector, car en se retournant, il heurta le bord du grand bouclier qui le couvrait tout entier et le préservait des traits. Et les pieds embarrassés, il tomba en arrière, et dans sa chute, son casque résonna autour de ses tempes. Alors Hector, l'ayant vu, accourut et lui perça la poitrine d'un coup de lance, au milieu de ses compagnons qui n'osèrent le secourir, tant ils redoutaient le divin Hector. Et les Argiens, qui d'abord étaient devant les nefs, se réfugiaient maintenant au milieu de celles qui, les premières, avaient été tirées sur le sable. Puis, cédant à la force, ils abandonnèrent aussi les intervalles de celles-ci, mais s'arrêtant devant les tentes, ils ne se dispersèrent point dans le camp, car la honte et la terreur les retenaient, et ils s'exhortaient les uns les autres. Alors, le Gérinien Nestor, rempart des Achéens, attestant leurs parents, adjura chaque guerrier. « Ô amis, soyez des hommes, craignez la honte en face des autres hommes. Souvenez-vous de vos fils, de vos femmes, de vos domaines, de vos parents qui vivent encore ou qui sont morts. Je vous adjure en leur nom de tenir ferme et de ne pas fuir. » Il parla ainsi, et il ranima leur force et leur courage. Alors, Athénée dissipa la nuée épaisse qui couvrait leurs yeux, et la lumière se fit de toutes parts, autant sur les nefs que sur le champ de bataille. Et ceux qui fuyaient comme ceux qui luttaient, et ceux qui combattaient auprès des nefs rapides, virent le brave Hector et ses compagnons. Et il ne plut point à l'âme du magnanime Aias de rester où étaient les autres fils des Achéens. Et il s'avança, traversant les poupes des nefs, et agitant un grand pieu cerclé d'airain et long de 22 coudées. Comme un habile cavalier qui, ayant mis ensemble 4 chevaux très agiles, les pousse vers une grande ville, sur le chemin public, et que les hommes et les femmes admirent, tandis qu'ils sautent de l'un à l'autre, et qu'ils courent toujours. De même, Aias marchait rapidement sur les poupes des nefs, et sa voix montait dans l'Ouranos, tandis qu'il excitait par de grandes clameurs les Danaïens à sauver les tentes et les nefs. Hector, de son côté, ne restait point dans la foule des Troyens bien armés, comme un aigle fauve qui tombe sur une multitude d'oiseaux paissant le long d'un fleuve, oies, grues et cygnes au long cou. De même, Hector se précipita vers une nef à proue bleue, et de sa grande main, Zeus le poussait par derrière, et tout son peuple avec lui. Et de nouveau, une violente mêlée s'engagea autour des nefs. On eût dit des hommes infatigables et indomptés, se ruant à un premier combat, tant ils luttaient tous avec ardeur. Et les Achéens, n'espérant pas échapper au carnage, se croyaient destinés à la mort. Et les Troyens espéraient dans leur cœur brûler les nefs et tuer les héros Achéens. Et ils se ruaient avec ces pensées les uns contre les autres. Hector saisit la poupe de la nef belle et rapide qui avait amené Protésilaos à Troie, et qui n'avait point dû le ramener dans la terre de la patrie. Et les Achéens et les Troyens s'entretuaient pour cette nef, et l'impétuosité des flèches et des piques ne leur suffisant plus, ils se frappaient dans une même pensée, avec leurs doubles haches tranchantes, les grandes épées et les lances aiguës. Et beaucoup de beaux glaives à poignées noires tombaient sur le sable des mains et des épaules des hommes qui combattaient, et la terre était trempée d'un sang noir. Mais Hector, saisissant de ses mains les ornements de la poupe et s'y attachant, cria aux Troyens « Apportez le feu et poussez des clameurs en vous ruant. Zeus nous offre le jour de la vengeance, en nous livrant ces nefs, qui, venus vers Ilios contre la volonté des dieux, nous ont apporté tant de calamités, par la lâcheté des vieillards qui me retenaient, et retenaient l'armée, quand je voulais marcher et combattre ici. Mais si le prévoyant Zeus aveuglait alors notre esprit, maintenant c'est lui-même qui nous excite et nous pousse. » Il parla ainsi, et tous se jetèrent avec plus de fureur sur les Achéens. Et Aias ne put soutenir plus longtemps l'assaut, car il était accablé de traits, et il recula de peur de mourir jusqu'au banc des rameurs, long de 7 pieds, et il abandonna la poupe de la nef. Mais du banc où il était, il éloignait à coups de lance chaque Troyen qui apportait le feu infatigable, et avec d'horribles cris, il exhortait les Danaïens. « Ô amis, héros Danaïens, serviteurs d'Arès, soyez des hommes. Souvenez-vous de votre force et de votre courage. Pensez-vous trouver derrière vous d'autres défenseurs ou une muraille plus inaccessible qui vous préserve de la mort? Nous n'avons point ici de ville sainte de tours d'où nous puissions repousser l'ennemi et assurer notre salut. Mais nous sommes ici dans les plaines des Troyens bien armés, acculés contre la mer, loin de la terre de la patrie, et notre salut est dans nos mains, et non dans la lassitude du combat. » Il parla ainsi, et furieux, il traversait de sa lance aiguë chaque Troyen qui apportait le feu sur les nefs creuses, afin de plaire à Hector et de lui obéir. Et cela, Aias les traversait de sa lance aiguë, et il en tua 12 devant les nefs.